Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous vous souvenez de la fameuse phrase de Hamlet de Shakespeare, « Être ou ne pas être, telle est la question ». Je pense qu'en 2020, on peut changer tout ça et ça pourrait être « Fêter ou ne pas fêter Noël ». Telle est la question. On va en parler avec Patrick Derry, qui est spécialiste en analyste des politiques publiques et qu'on retrouve tous les vendredis pour le bilan de la COVID. Bonjour Patrick.
Bonjour Sophie.
Je pense que de plus en plus, c'est vraiment la question qui taraude tout le monde, mais il y a des scientifiques, des médecins sur le terrain qui sont vraiment très, très clairs. Tu as relayé sur les médias sociaux une entrevue qu'un médecin du CUSUM a donnée à CTV, il s'appelle Don Shepherd, c'est un spécialiste des maladies infectieuses au CUSUM. Lui est très clair, Noël, c'est non.
Oui, c'est ça. C'est le directeur du département des maladies infectieuses au CUSUM. Puis c'est une autorité, le monsieur. D'ailleurs, c'est drôle, quand j'ai relayé l'information, il y a des gens qui travaillent avec lui qui m'en ont parlé. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un leader. Et le monsieur, il a donné une entrevue à CTV et il était furieux devant la décision de Noël, et que ça dure 6 minutes, là, mais ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Et moi, je donne rapidement quelques citations, là, parce qu'il met vraiment pas de gants blancs. Hein.
Okay, vas-y.
Normalement, on dit aux gens qu'il y a une période de 14 jours avant de savoir s'ils vont développer la maladie. On ne peut pas faire un rabais de 50% parce que c'est Noël et prendre une période d'isolation de 16 jours. T'sais, ça commence fort. Après ça, plus tard dans l'entrevue, il dit qu'il s'agit du moment historique où vous avez à vous demander dans 5 ou 10 ans ce que vous direz à vos enfants que vous avez fait pour empêcher la transmission à Noël. Comment avez-vous prévenu ces morts évitables? Et j'en donne une dernière. La science n'accepte pas une chose telle qu'un contrat, qu'il soit moral ou autre. Le virus se fiche si nous avons conclu une entente avec nous-mêmes. Il est heureux de se répandre si nous lui en donnons l'opportunité. Ne faisons pas ça.
Et c'est excellent.
J'aurais pu continuer, là, il y en a donné d'autres. Là, il était vraiment en feu, le monsieur. Et c'est signifiant parce que c'est le premier gestionnaire, en tout cas à ma connaissance,
oui,
du milieu de la santé, qui critique aussi fortement le gouvernement, et pas juste cette semaine. Moi, je me rappelle pas, là, depuis le début de la pandémie, là, d'avoir vu quelqu'un qui est dans une position de direction. Donc, c'est un employé du gouvernement, ultimement, là, et il a été vraiment cinglant. Et il y a des médecins aussi qui sont embarqués dans son sillage, parce que le truc a fait du millage. Puis moi, j'ai vu beaucoup de médecins sur le terrain qui ont relayé ça, puis qui manifestent leurs inquiétudes. Je ne sais pas si ça va montrer un tournant, là, mais c'est une prise de position qui était forte, qui était importante.
Bon, le seul problème, enfin, c'est pas un problème en tant que tel, ce qui est dommage, c'est que ça a été fait en anglais, donc ça a peut-être moins d'impact. Je sais pas si le Dr. Shepherd parle français. On va essayer de le contacter parce que moi, j'aimerais beaucoup faire une entrevue avec lui, mais il faudrait qu'il y ait, du côté francophone aussi, des médecins qui prennent position de façon aussi claire, nette, frette et sec, parce que et tu sais, il le dit lui-même, Dr. Shepherd, c'est vraiment, c'est une question de vie ou de mort, là. Est-ce que dans 5 ou 10 ans, on va vouloir dire on a fait tout ce qu'on pouvait à Noël 2020 pour empêcher la propagation de la maladie, ou alors est-ce que on a transmis la COVID à grand-papa puis grand-maman, là? C'est vraiment, je trouve que j'ai comme le sentiment que dans la population en ce moment, les gens ne mesurent pas l'importance des conséquences des choix qu'ils vont faire pour le temps des fêtes.
Oui, absolument, absolument. Puis c'est un point qui est intéressant parce que si on prend, normalement, quand on décide d'un point de vue individuel. C'est par exemple, là, on a une voiture, puis on prend le risque, si on veut, de conduire, tout en sachant qu'on peut avoir un accident parce que Bon, il y a plus de 350 décès sur les routes par année, c'est beaucoup, mais en même temps, on est 8 millions. Fait que on se dit, c'est un risque qui est calculé. Même chose pour prendre l'avion, qui est encore moins risqué. Une pandémie, c'est pas un risque individuel, c'est un risque collectif. Tu prends un risque pour les autres, ce qui fait qu'une action qui est rationnelle du point de vue des individus, tu dis, ah, j'ai une chance sur 1000 de l'attraper, puis après ça, j'ai une chance sur 100 d'en être vraiment, d'en mourir, ou en tout cas d'être intubé, dépendamment de ton âge. Fait que donc, tu dis, ça va. Il y a pas un gros risque, donc ça vaut la peine. Mais sauf que le risque, tu le fais pas courir juste à toi, d'une part, mais c'est aussi sur la loi des grands nombres. Là, s'il y a 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de personnes qui prennent la même décision, ça va faire des centaines, des milliers de contaminations qui vont mener à des décès. Fait que notre mode de décision habituel, il est pas vraiment habitué pour ça. Voilà. Puis, évidemment, si on a des messages contradictoires de la part du gouvernement,
ça aide pas.
Ça complique les choses en plus, parce que
ouais.
Monsieur Legault, hier, là, excuse-moi, Monsieur Legault, hier, il dit, ah, je comprends qu'il y a des gens qui doivent travailler la semaine avant, puis là, ben, écoutez, à ce moment-là, faites attention, puis c'est correct, mais c'est rester à 2 mètres, puis porter un masque. Mine de rien, là, le premier ministre vient dire que la période d'isolation prend le bord.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mais non, c'est ça. C'est moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette façon de... C'est comme une façon de négocier avec la COVID, mais tu peux pas faire des demi-mesures. Il faut que tu sois ferme, clair et net. Et je reviens sur une autre déclaration que t'as traduite sur ton compte Twitter du docteur Shepherd. C'est quand il dit, à propos du temps des fêtes, ce sera pas un pic, ça va être une flambée. Ce sera un test pour nos hôpitaux. Je ne suis vraiment pas certain que c'est ce que nous voulons. Quels seront les effets sur les cancers, les chirurgies électives et autres? Donc, c'est pas juste que en allant faire le party de la dinde avec grand-papa et grand-maman, on risque de leur transmettre la maladie puis qu'ils risquent d'en mourir. C'est aussi les conséquences que ça va avoir sur toutes les autres gens qui ont des problèmes de santé au Québec. Si jamais on se retrouve, même avec même si on n'en meurt pas, mais qu'on se retrouve justement à engorger le système de santé. Ça veut dire que des gens qui, par exemple, ont besoin de traitement pour le cancer, ont besoin d'avoir des chirurgies, ben ils pourront pas parce que le système va être engorgé par des tapons qui auront décidé de manger de la dinde à Noël. Je m'excuse d'être aussi bête dans mon vocabulaire, mais à un moment donné, une cuisse de dinde, c'est-tu vraiment si important que ça en regard des conséquences possibles sur l'ensemble des Québécois?
Absolument. Puis d'ailleurs, le Dr Shepherd a parlé de tempête parfaite parce que c'est ce que tu décris, l'effet sur les cancers puis les chirurgies. D'abord, c'est déjà présent parce que on a pris du retard
depuis
ce printemps.
Le début.
Au début de l'été, il y avait quelque chose comme 75 000 chirurgies en attente de plus de 6 mois. Donc, ça veut pas dire 75 000 chirurgies en attente, ça veut dire 75 000 chirurgies en attente de plus de 6 mois, là, à partir du moment où t'as consulté un spécialiste, t'as besoin de ça. Fait que c'est un gros backlog, pour parler en bon français.
Oui.
Mais ça s'est accentué pendant l'été, ça s'est accentué. Là, on est rendu à plus de 130 000 chirurgies en attente. Fait que c'est sûr que ça va être une déferlante. On le sait déjà, on voit des gens qui arrivent, puis les cancers, par exemple, sont plus avancés. Et là, quand t'arrives au temps des fêtes, là, en temps normal, la période des fêtes, le tournant de la nouvelle année, là, pour toutes sortes de raisons, là, à cause de la grippe, à cause de situations d'accidents ou d'autres événements, les urgences, les hôpitaux sont déjà plus chargés en temps normal. Ça, c'est quand les choses vont bien dans notre système qui fournit jamais de toute façon. C'est plus débordé dans le temps des fêtes. T'en rajoutes une couche avec la pandémie. Il faut pas oublier que non seulement ça, mais c'est les travailleurs de la santé. Il y en a plusieurs qui ont démissionné cet été, qui ont décidé de quitter le milieu cet été. Puis au début de l'automne, c'est peut-être pas encore fini. Il y en a qui sont en congé. Il y en a qui finissent par être infectés, donc ça fait encore une pression additionnelle pour les remplacer. Ceux qui restent sont brûlés. On s'aide pas.
Non, on s'aide vraiment pas. Écoute, moi, je trouve tout ça extrêmement inquiétant et je le répète, je trouve qu'il y a un sentiment de très de nonchalance auprès de beaucoup de mes concitoyens, de nos concitoyens. Et je pense que... Écoute, je le disais ce matin à Pierre Nantel, je me demande si François Legault devrait pas faire un message assis à côté d'Isabelle Bray, sa femme, un message aux Québécois en disant « Regarde, on va se le dire, là, 2020, il faut qu'on passe une année. On fêtera Noël en 2021. C'est sûr que même si on vous dit que vous pouvez le faire, c'est pas une raison nécessairement pour le faire. Pensez sérieusement. Il faut qu'ils nous regardent dans la caméra, là, qu'ils nous regardent dans le blanc des yeux, puis qu'ils nous disent « Voulez-vous vraiment donner le cadeau de la COVID aux gens que vous aimez le plus sur Terre? » C'est-tu vraiment ça que vous voulez faire comme cadeau de Noël?
Oui, puis tu sais, faut dédramatiser aussi, parce que là, moi, j'ai comme l'impression là qu'on est une bande d'enfants en train d'un anane, là. La plupart d'entre nous, on est déjà en famille, fait que tout le monde n'aura pas un gros réveillon, là, mais c'est pas une majorité de gens qui vont être seuls à Noël. Fait que maintenant, on regarde du côté de l'Ontario, par exemple. L'Ontario,
mais oui, je voulais t'amener là.
Le Québec environ 50% de plus de cas présentement de contamination en proportion de sa population que l'Ontario, et presque trois fois plus de morts. Et là, je parle pas du total, là, je parle de la mortalité actuelle là, en proportion mm-hmm. de la population. Ouais. Donc, c'est dans les grandes provinces, l'Ontario présentement, c'est la province qui contrôle le mieux la pandémie, autant pour la transmission que pour la mortalité, parce que ça a monté en Alberta, puis ça a monté en Colombie-Britannique, et évidemment Manitoba, mais ça n'a pas fini de monter dans l'Ouest. Et cette semaine, le premier ministre Ford, ce qu'il a dit, c'est essentiellement, c'est Noël, là, ça va être en 2021.
Ben voilà.
Oubliez ça cette année. Bon, les personnes qui sont seules, elles, c'est correct, on les laissera pas seules, aller avec, aller rejoindre une famille, ça c'est correct, mais avec ça, t'as une solution compromis quand même, parce que ça reste un compromis, mais c'est un petit peu plus raisonnable. Mais c'est, tu sais, l'exemple vient d'en haut. Fait que quand on a un exemple qui est un petit peu confus, puis qui est chancelant, puis qui est chambranlant, ben ça donne ce que ça donne. Puis là, on a vu les allers-retours sur Noël depuis une semaine. Tu sais, ça a commencé par 4 jours, il n'y a pas de problème, allez-y, faites ce que vous voulez. Après ça, on a dit, ben, en début de semaine, ouais, mais peut-être 2 rassemblements, ça serait mieux. Hier, le message était encore équivoque, mais de l'autre côté, à un moment donné, là, faut, c'est un peu de sérieux.
Oui, puis écoute, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Si tu donnes beaucoup de cordes, puis qu'après tu tires sur la corde pour en donner moins, la personne à l'autre bout va être vraiment fâchée. Alors que si t'en donnes un tout petit peu, puis qu'au fur et à mesure tu lâches du lest, ben là la personne à l'autre bout va se dire « Ah, wow, ok, c'est super, les nouvelles sont bonnes ». C'est que le gouvernement a pris les choses à l'envers. En passant d'une mesure très large à une mesure plus restrictive, alors qu'il aurait dû commencer à avoir une mesure très restrictive, et si les circonstances le permettaient, là, être plus permissif. Ils sont vraiment allés à l'envers. Je pense que c'est une erreur de stratégie, puis ils doivent en ce moment s'en mordre les doigts. Écoute, je trouve que c'est important de parler des chiffres du nombre de morts, parce que toi, tu prévois, en fait, qu'en fin de semaine, on va passer le cap des 7000 morts. Il me semble qu'on est passé vite, passé pas mal plus vite de 6000 à 7000 qu'on était passé de 5 à 6000. Est-ce que je me trompe?
Ah non, c'est tout à fait ça. Le cap des 7000 morts, on va, dépendamment du nombre de décès, ça va être samedi ou dimanche, à moins qu'il y ait une baisse vraiment inattendue, là, ce qui serait surprenant parce que le virus se répand chez les personnes plus âgées. Mais bref, pour passer de 5000 à 6000 morts, ça a pris un peu plus que 4 mois. Pour passer de 6000 à 7000, ça va avoir pris tout juste 6 semaines. Mm-hmm. Fait qu'on a descendu, on a coupé de plus de moitié le temps que ça a pris pour aller chercher l'autre 1000 morts. Et si ça se maintient au rythme actuel, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'augmentation, là, évidemment, il peut peut-être y avoir une baisse, là, mais pour l'instant, c'est peu probable. Si ça se maintient, là, ça ne sera pas 6 semaines, ça va être tout juste un mois pour se rendre à 8000 morts, donc juste à temps pour Noël. Donc la mortalité, là, on l'a pas vu. C'est comme la grenouille là, qui est en train de chauffer. Là, c'est au début, on était 2-3 morts par jour en moyenne. Après ça, 5-6 morts par jour en moyenne. Après ça, 10-12 morts par jour en moyenne. Puis là, on regardait dans le rétroviseur, puis on se disait, ah, on avait des journées de 100 morts au printemps, il n'y a rien là. Mais là, on est rendu à 30 morts par jour en moyenne. Là, ça commence à être beaucoup.
On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure avec les déclarations du docteur Shepherd par rapport à la capacité des hôpitaux, parce que il faut garder en tête que depuis le début, c'est ça. Quand on parlait d'aplatir la courbe, c'était pour s'assurer qu'il n'y ait pas des débordements dans les hôpitaux. Tout ce qu'on fait, toutes les mesures qu'on fait, c'est pour s'assurer que le nombre de cas versus les capacités des hôpitaux, qu'il y a une adéquation entre les deux. Bon. Toi, tu dis, oui. La semaine dernière, les projections hors Montréal et versus cette semaine, on continue à s'inquiéter pour les hôpitaux. Puis en plus, traditionnellement, à la fin de l'année, les hôpitaux sont en général débordés. Donc avec la pandémie, ça va juste empirer. Donc est-ce qu'on doit avoir l'angoisse au ventre en ce moment en pensant à la capacité des hôpitaux?
Ben, en tout cas, il y en a qui l'ont, hein, parce que l'Institut national d'excellence en santé, en tout cas l'INES, la semaine passée, quand ils ont sorti leur projection, ils ont sonné l'alarme pour la première fois. Ils font une mise à jour régulièrement, puis jusqu'à maintenant, c'était tout va bien, Madame la Marquise, ils regardent toujours 4 semaines en avant, ils regardent la capacité des hôpitaux, et ça va bien. C'est toujours, ça devrait pas déborder. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas de malade et qu'il n'y a pas de mort, mais ça devrait pas déborder. Ça veut dire qu'on devrait pas avoir de choix à faire en savoir est-ce qu'on va, par exemple, on n'a pas assez de ventilateurs, on n'a pas assez de lits, puis on va décider qui soigner. Mais la semaine prochaine, ils ont dit, oups, en dehors de Montréal, pas sûr, ça va passer serré, puis ça passera peut-être même pas à certains endroits. Et là, on se disait, au moins à Montréal, c'est correct. Cette semaine, la santé publique de Montréal a dit, hey, on a franchi le cap des 200 hospitalisations liées à la COVID présentement à Montréal. Puis là, il y a des gens qui vont dire, 200, c'est rien. Là, on a plein, je sais pas, là, 20, 30 hôpitaux là, à Montréal. Mais c'est toute une logistique. Avoir des patients qui sont contagieux dans un hôpital, puis c'est beau avoir des lits, il faut être du personnel pour les soigner aussi, puis tu as des zones chaudes, tu as des zones froides, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Fait que là, présentement, on a cette inquiétude-là des deux côtés, et évidemment, on a le signal qui est envoyé pour le réveillon. Et moi, je rappelle que quand on dit là qu'on veut limiter les hospitalisations, parce que c'est sûr qu'on est dans cette game-là présentement, c'est un pis-aller. Ça veut dire qu'on l'a échappé. On a accepté qu'on avait une transmission communautaire, qu'on avait de la misère à contrôler, contrairement à d'autres pays où ils ont mis le couvert plus tôt. Là, c'est notamment là, l'Asie-Pacifique, là, la Corée, l'Australie, oui. La Nouvelle-Zélande, Taïwan. Eux, ils n'ont pas été proches de ce problème-là parce qu'ils l'ont attaqué plus tôt. Nous, on a décidé d'attendre parce que pour des raisons, je pense, principalement politiques. Là,
ben absolument politiques, oui.
C'est ça, on n'a pas imposé de mesure assez tôt. Fait que là, on gère les hospitalisations, mais c'est pas comme un robinet dont on peut contrôler le débit, hein, parce que c'est toute une séquence. Hein, on parle de la transmission, on sait 2 semaines en retard ce qui se passe parce que la transmission est invisible pendant un certain temps. Après ça, on mesure les cas, ça se traduit en hospitalisation, ça se traduit aux soins intensifs, ça peut rentrer par plein d'endroits, ça peut rentrer dans les hôpitaux, ça peut rentrer dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées, ça passe dans les écoles aussi. Après ça, là, d'arriver puis de dire, là, tu lèves ton doigt en l'air, tu dis, ah, je pense qu'on va être rendu à tant d'hospitalisation dans un mois, là, c'est pas un exercice facile, puis si tu te trompes, ben, c'est vraiment tragique.
Oui, absolument. Donc, vraiment, pensez-y bien. J'ai commencé le segment avec toi en disant fêter ou ne pas fêter Noël. Dans mon cas, la décision est prise. J'imagine que dans ton cas aussi. En tout cas, matière à réflexion, toujours intéressant de réfléchir puis de faire le bilan de la semaine avec toi, Patrick. Merci beaucoup d'avoir été là. Patrick Derry, donc spécialiste en analyse des politiques publiques. Il est avec nous tous les vendredis à Cube Radio pour faire un bilan de la COVID-19. Ben, jusqu'à temps que ce soit fini, hein, on imagine qu'au printemps, on va peut-être être rendu ailleurs. On le souhaite. En tout cas, merci, Patrick.